Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous accueillons des acteurs, Louise Doutreligne et Jean-Luc Paliès, qui nous viennent tout droit de France pour nous présenter leur création, une réécriture de l'aveu de la princesse de Clèves. À la base, la princesse de Clèves, c'est l'histoire d'une princesse qui va épouser le prince de Clèves, un homme, ma foi, bon et charmant, mais la princesse de Clèves va être confrontée à un autre amour, monsieur de Nemours. La jeune femme se trouve alors en plein dilemme, avouer la vérité ou cacher son amour. Elle choisira la voie de la raison en révélant son secret. Si vous avez réécrit complètement l'œuvre,
oui,
et donc changé plein de passages, ce qui fait que c'est plus du tout la même histoire. Je vais commencer par la première question. Depuis combien de temps êtes-vous sur ce projet ?
C'est bizarre, c'est un projet qui est né ici à Barcelone l'année dernière, pendant le festival Oui Barcelone, où nous jouions un autre spectacle que j'avais écrit aussi, La cabane de l'architecte. Ensuite, on avait eu une discussion avec des professeurs de l'école de langue de Badalona. Il y avait aussi Jean-François Prévent qui est acteur et qui vit aussi en partie à Barcelone, qui était là. J'ai dit, bah, tiens, ça ne t'intéresserait pas de faire le rôle de Monsieur de Clèves et Monsieur de Nemours dans La princesse de Clèves, j'ai un projet et tout ça. Et les deux professeurs étaient là, et, mais c'est en ballon cette idée, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Et j'ai dit, bah, top là, on le fait. Et voilà, et je me suis mise tout de suite au travail d'écriture.
Oui, ben non. Donc, il y avait quand même une préméditation, parce qu'il y avait déjà eu un premier travail que tu avais fait, Louise, sur... La princesse de Clèves, sur cette scène incroyable et paradoxale de l'aveu, et d'essayer de trouver l'écrin, le cadre qui permettrait de faire entendre ce texte, qui est un roman vaste, un des plus grands romans de la langue française, hein, La princesse de Clèves, mais de le faire d'une manière réduite au théâtre, parce qu'évidemment, hein, au théâtre, il faut qu'on soit rapide, et puis il faut qu'on soit dynamique aussi. Donc Louise a pensé tout de suite écrire, en fait, à partir des auteurs de l'œuvre Madame de Lafayette, elle s'appelle. Et puis, il semblerait qu'elle ait écrit avec un monsieur qui s'appelle Monsieur de La Rochefoucauld, qui avait écrit les Maximes, vous savez, les fameuses Maximes de La Rochefoucauld, qu'on connaît du XVIIe siècle. Et il paraît que ces deux personnages auraient écrit ensemble. Et Louise a imaginé un écrin assez curieux où un réalisateur
contemporain
d'aujourd'hui qui essaye de faire un film et qui essaye de comprendre comment il pourrait tourner quelque chose autour de la princesse de Clèves, un peu une espèce de Al Pacino qui voudrait faire Looking for la princesse de Clèves, et qui vient et qui dit bon ben à deux acteurs, écoutez voilà, j'ai un projet, j'aimerais bien vous faire jouer Madame de Lafayette et Monsieur de La Rochefoucauld, et puis bon, en même temps, vous pourriez interpréter tous les personnages, les lire, voilà. Donc c'est un peu le projet de Louise d'écriture. Elle a écrit une espèce de spectacle mis en abîme, hein, où on rentre progressivement dans La princesse de Clèves au travers de deux comédiens contemporains avec un réalisateur, et petit à petit on rentre, on va profond dans le sujet, et c'est assez passionnant. Pour répondre complètement à votre question, ça fait à peu près 5-6 mois qu'on est en répétition, voilà, mais avec des périodes un peu comme ça. En fait, nous faisons la création là, c'est la première fois que nous allons jouer ce spectacle en public. Faut venir nous aider, nous soutenir.
Vous dites que vous aviez déjà travaillé la scène de l'aveu, qui est un peu la scène la plus importante. Mais pourquoi vous avez choisi cette pièce-là ?
Écoutez, je suis obsédée par La princesse de Clèves depuis mon très jeune âge. Je l'ai découvert au lycée quand j'avais 15 ans, je crois. Ensuite, j'ai vu le vieux film de Jean Delannoy avec Marina Vladi, qui est très très vieux film, et je me suis identifiée à la princesse. Bon, cette histoire d'amour qui l'a saisie, parce que bon, vous avez bien fait l'introduction, mais en réalité, le monsieur qu'elle épouse, un peu par obligation de sa mère, il est beaucoup plus âgé qu'elle. Elle a 16 ans et lui, il en a 45, 40. À l'époque, c'était très vieux, 40. Et tout d'un coup, évidemment, elle accepte ce mariage. Elle ne sait pas, elle est innocente. Elle se dit, pourquoi pas, comme elle dit à sa mère, pourquoi lui plutôt qu'un autre ? Je ne sens rien de particulier, mais si c'est votre désir, ben oui, allons-y. Alors, elle se marie, elle fait tout bien. C'est une jeune fille sage. Et paf, arrive le prince de Nemours, jeune, beau, dynamique, séducteur, drôle, etc. Et évidemment, crac ! Mais comme elle a ce côté, d'ailleurs, qui a créé polémique à l'époque, c'est ça qui m'a intéressée aussi, c'est qu'à l'époque, le roman a fait polémique. C'est-à-dire que dans les salons parisiens, tout le monde se réunissait pour dire « C'est un scandale, il ne faut jamais avouer à son mari quand on a un amant ou quand on aime quelqu'un d'autre. On n'avoue pas, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette scène de l'aveu ?» Et cette scène de l'aveu a suscité pendant presque 3 siècles. Ça avait fait tellement polémique que les gens sont descendus dans la rue avec des pancartes comme du temps de Charlie, et était marqué « Je lis la princesse de Clèves ».
Mais on l'étudie toujours, cette scène.
Voilà, et on l'étudie toujours. Donc, c'est vrai que cette scène de l'aveu, pour moi, c'est ça le nœud du roman, et c'est en même temps le reste du roman, je dirais, il est historique. Enfin, franchement, moi, je conseille aux jeunes même de passer les 50 premières pages. Hein. D'ailleurs, il y a même des critiques de l'époque aussi, au 17e, qui disaient « Mais commencez quand la princesse arrive, c'est pas la peine de lire le contexte, on s'en fiche ». Non, il faut commencer quand elle arrive, la princesse à la cour, que tout le monde tombe des nues de voir cette beauté, et tout le monde est attiré par elle, et elle suit le chemin que lui dicte sa mère, elle est toute jeune, toute innocente, elle sait rien, de la vie, de l'amour, tout ça. Et évidemment, il va y avoir le basculement avec l'arrivée du duc de Nemours qui va chambouler son cœur et son corps, d'ailleurs. Et elle va contraindre son corps, c'est-à-dire elle va avoir l'injonction de sa mère. Alors là, il y a vraiment un truc dans Madame de Lafayette, c'est la pression maternelle énorme, la jonction de sa mère qui lui a donné des conseils juste avant de mourir. Elle lui dit « Vous êtes au bord du précipice, ma fille, ne tombez pas dedans, le péché, tout ça. » Donc, il y a ces espèces de poids maternel et elle va le subir jusqu'à renoncer, puisque finalement son mari va mourir. Oui. Bon, de chagrin, mais enfin, il va mourir. Elle est veuve, elle peut faire ce qu'elle veut. Le duc de Nemours dit « Mais enfin, vous êtes libre, madame, mais il n'y a plus d'obstacles !» Et elle va dire non, et elle va refuser. Ça aussi, ça a été incompris. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce roman où d'abord elle avoue à son mari qu'elle aime un autre, son mari en meurt de chagrin, elle est libre, mais elle a le sentiment de culpabilité intérieure, disant que c'est à cause d'elle qu'il est mort, par sa faute. Et donc, elle se retire, elle ne va jamais accomplir l'amour avec son prince charmant. Voilà. Et elle dit, oui, mais les hommes conservent-ils de la passion dans les engagements éternels? Est-ce que je dois espérer un miracle en ma faveur? Parce que toutes les femmes vous adorent. Et un jour, je vous verrai amoureux et aimé par une autre que moi. Et vous aimerez une autre que moi. Et je ne veux pas subir ça. Donc il y a aussi une espèce d'orgueil. Je dirais presque, c'est son seul acte à l'époque, son seul acte de liberté qu'elle a, c'est de refuser. C'est bizarre.
Hein. Ça a l'air comme ça, tragique, et très très féministe, évidemment. C'est
triste, oui, hein. C'est triste, hein, c'est affreux. Mais je pense que le seul acte de liberté qu'a la petite princesse à l'époque, c'est de refuser. C'est-à-dire, ben, je vous dis non. Voilà. Je préfère me retirer dans un couvent, être seule, et je garde mes principes. Voilà.
Bon. Alors dans le spectacle, dans l'écriture, Louise, elle a mis tout ça, évidemment, aussi dans la bouche de Madame de Lafayette et La Rochefoucauld, qui étaient amoureux tous les deux, d'une certaine manière. Et donc, on a aussi, au travers de leur dialogue, comme ils se lisent des passages de La Princesse de Clèves, comme une conversation oblique amoureuse qui s'établit entre ces deux personnages. Ce qui crée une forme d'humour aussi. C'est-à-dire que c'est une tragédie, on la raconte telle qu'elle est, la tragédie, mais en même temps, au travers du spectacle, il y a beaucoup d'humour, parce qu'il y a cette distance qui est donnée par le fait que c'est Madame de Lafayette et La Rochefoucauld qui se donnent à lire, en quelque sorte, les personnages. Et puis, il y a la présence de ce réalisateur un peu fou qui espère qu'il va pouvoir faire des images avec ça. Donc, on voit aussi des images et on voit aussi et on entend de la bande-son, on entend de la musique. Ça a été très important aussi dans la réalisation du spectacle qu'il y ait beaucoup de musique qui vienne soutenir les scènes, qui vienne seconder, en quelque sorte, la parole. Beaucoup de musique. Et on a fait créer une musique spécialement pour le spectacle par des grands musiciens à Paris. Et on est très très content de cette bande-son. En quelque sorte, le réalisateur, il prépare la bande sonore du spectacle et quelques images. Voilà. Donc on voit ça dans le spectacle. C'est ça qui est assez amusant.
Donc oui, vous avez changé énormément la pièce. Et donc ça s'appelle une création. Si vous deviez définir une création, vous diriez quoi?
Définir une création.
C'est vraiment quelque chose de nouveau, quoi. Dans la création, c'est comme naître, comme un nouvel être qui arrive sur Terre. C'est une création d'un enfant, par exemple. C'est un nouveau texte littéraire. Cette création, effectivement, elle porte les gènes de toute la création littéraire depuis Madame de Lafayette, et même peut-être avant, puisque Madame Lafayette elle-même portait les gènes. C'est-à-dire, il y a une chaîne aussi littéraire. C'est vrai que j'aime bien aussi travailler le contexte, c'est-à-dire voir comment elle a écrit, cette Madame de Lafayette, qui elle était. Elle était dans les salons à l'époque, il y avait les précieuses. Les précieuses, elle disait, nous, on veut de l'amour sans sexe. D'ailleurs, c'est très marrant parce que ça fait écho à aujourd'hui. Il y a de nouveau un mouvement de jeunes qui disent l'amour sans sexe, quoi. Voilà. Elle prônait ça. Mais en même temps, elle était très, très charmée par Monsieur de la Rochefoucauld, qui était un grand, grand seigneur. Donc, elle était aussi admirative. Bah, elle est dans une contradiction.
Comme nous tous.
Comme
quoi.
Nous tous.
Humain, trop humain.
Humain, attiré, en même temps, avec des principes, comme la princesse. Hein.
Pardon, pour revenir à la création, en fait, notre acte de création, c'est un acte artistique, de compagnie. Notre compagnie existe depuis pas mal d'années. On a une certaine maturité, on peut dire. On a fait beaucoup, beaucoup de créations différentes, beaucoup de spectacles différents. Mais ce spectacle-là est dans une lignée à partir d'œuvres classiques, c'est des relectures de classiques. Hein, voilà. Et tout ce travail qu'on a pu faire pendant des années, on a fait un travail sur Don Juan, on a fait un travail sur Carmen, Faust, on a fait voilà, plein de spectacles qui triturent la matière, qui des mythes européens ou des écritures anciennes. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, Louise, elle fait un travail de recherche, un travail profond. Et puis nous, au niveau de la... Quand je dis nous, c'est-à-dire moi, le metteur en scène, et puis les partenaires, le scénographe, la personne qui va s'occuper des lumières, des vidéos, etc. On se met au service de ces propos, de cette volonté de nouvelle création, pour faire entendre ces classiques anciens et leur donner une nouvelle vie, une nouvelle acuité, si vous voulez. Hein. Ça nous parle aujourd'hui quand même, finalement, ces écritures du passé. Parce que c'est vrai que si on prend le texte comme ça, La Princesse de Clèves, et qu'on commence à l'annonner, oh là, c'est difficile, c'est insupportable comme ça, parce que c'est une écriture très littéraire. La langue du XVIIe siècle est quand même complexe, hein, aujourd'hui, pour se la mettre en bouche. Hein. Même la langue de Molière, c'est pas une langue facile. Hein. Nous, ce travail qu'on essaye de faire, c'est de rendre actuel et entendable, finalement, ces langues du passé et comment elles nous parlent aujourd'hui. Voilà, c'est ça la création. Après, ce qui est important au théâtre, c'est d'essayer d'emprisonner des moments d'émotion. Alors, la tragédie et la comédie, la tragicomédie, comme dans la vie, les contradictions humaines, c'est intéressant, ce sont des expériences, c'est un laboratoire. Le théâtre, c'est le laboratoire des expériences humaines. On fait l'économie quand on va au théâtre. Par exemple, quand on va voir une tragédie, on fait l'économie de ne pas la vivre, la tragédie, de ne pas forcément acter la tragédie. On la voit par d'autres. Hein. Donc, il y a une espèce de transposition et c'est ça qui est magique au théâtre. C'est aussi la présence physique des acteurs. C'est aussi la relation qui s'établit entre le spectacle et les acteurs sur le plateau, qui tout d'un coup est miraculeuse et qui fait que ça se transmet. Quoi. Il y a quelque chose qui passe. Et beaucoup d'émotions passent aussi, évidemment.
Vous avez parlé beaucoup de la création musicale qui est donc très importante dans cette pièce.
Oui.
Vous avez créé des musiques spécialement pour...
Alors, nous, on n'est pas musiciens, justement. On a demandé à des musiciens très, très compétents. On leur a donné des références, on leur a dit, écoutez, voilà, on aimerait bien que vous fassiez une musique d'aujourd'hui, contemporaine, évidemment, puisque vous êtes contemporain, vous êtes vivant, mais quand même qu'il y a des résonances avec le passé, pareil.
Donc, comme votre
voilà.
Pièce, finalement.
On leur a fait écouter des musiques de l'époque, Marin Marais, Lully. On leur a choisi des morceaux, on leur a dit, écoutez, ça serait bien que vous puissiez composer quelque chose dans cet esprit-là. Et puis, bon, nous, on va s'en servir dans le spectacle, on va en mettre des bouts. On a mis beaucoup, il y a beaucoup de musique dans le spectacle, et c'est vraiment très passionnant et très intéressant.
Une scène qui vous plaît particulièrement, peut-être autre que l'aveu, qui est quand même la scène phare de la pièce.
C'est les scènes contemporaines aussi.
Oui, il y a les scènes contemporaines, très contemporaines, où tout d'un coup, l'acteur dit « Mais c'était vraiment leur relation aussi à Lafayette et La Rochefoucauld à l'époque. » Bon, le réalisateur met son grain de sel, dit « Si, si, ils ont écrit comme ça. » Et là, l'actrice donc dit « Mais Madame de Lafayette, ses amis l'appelaient le brouillard. » C'est pour vous dire quel type de personnalité elle avait. Puis paf, on repart. C'est comme une césure, comme une cassure, très contemporaine.
Et assez drôle, assez humoristique.
Et c'est humoristique, oui. Et puis après, ça repart. Et moi, j'aime bien ces ruptures, ces cassures, comme ça, brutales à l'intérieur du texte. Quoi.
Voilà. Oui, ça ajoute de la contemporainité.
Ça, oui, c'est ça. Et de la contemporainité, et de la présence, voilà, de la présence d'acteurs aussi. Parce que tout d'un coup, les gens qui ont vu un filage, parce qu'on n'a pas encore joué, ils se demandaient... s'il nous arrivait un truc à nous, quoi. Enfin, là, présentement, s'il y avait un problème ou si c'était dans le texte. Voilà, et ça, j'aime beaucoup. J'aime oui. beaucoup ce côté immédiat, comme ça, où on est saisi, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, quoi.
Pourquoi Barcelone ? Pourquoi vous venez jouer à Barcelone ?
Parce qu'on aime bien Barcelone, on aime bien l'Espagne. On est amoureux de l'Espagne. Ça fait plusieurs spectacles qu'on fait sur des thèmes hispaniques. C'est vrai que, bon, on a de la famille à Barcelone. Donc, oui. C'est vrai qu'on aime bien venir assez souvent à Barcelone. Ça nous touche de près. C'est vrai que ce Oui Festival, ça fait 2-3 ans qu'on côtoie,
qu'on le suit.
Et l'an dernier, on a eu un énorme succès avec la cabane de l'architecte. Enfin, ça a été vraiment un moment assez émouvant. Après, on a repris le spectacle, on l'a joué un peu grâce au festival ici. D'ailleurs, on l'a repris au Festival d'Avignon et on a fait un énorme succès à Avignon. D'ailleurs, on va le reprendre cette année encore au Festival d'Avignon, c'est pour vous dire. Ça rebondit, c'est un spectacle vraiment... depuis, on est un peu amoureux de Barcelone.
C'est chouette si en plus vous avez... décidé de jouer cette pièce à Barcelone, que vous la jouiez à Barcelone.
Voilà, alors on va dire Barcelone et aussi un peu plus, parce qu'il y a comme le professeur qui traduit l'œuvre de Louise, le professeur Evelio Mignano est de Valencia. En fait, on va jouer aussi à Valencia.
Ah oui ?
Et à Alicante.
Le 11 avril, on joue à Valencia, à l'Université d'Alicante, le 15 avril. On va faire une espèce de tournée de ce spectacle, alors surtitré en castillan, puisqu'on a le surtitrage. On va faire une tournée de ce spectacle un peu dans plusieurs villes espagnoles, quoi. Déjà une grande tournée finalement. Et puis bon, on a le projet de reprendre le spectacle ensuite à Paris la saison prochaine.
Donc là, vous n'avez encore jamais joué cette pièce-là devant le public.
Non.
Comment vous appréhendez la représentation?
On appréhende très très fort parce qu'on a vu un très beau spectacle pour l'ouverture du Festival Oui, vraiment un miracle de spectacle, magnifique vraiment, qui met la barre très très haut. Donc disons qu'on est un tout petit peu, comme on dit, on a un peu le trac, hein, parce qu'il faut être à la hauteur, on répète.
On fait ce qu'il faut pour être en forme physiquement, mentalement, disponible, comme il faut être quand on est acteur. Voilà. Non, disponible et en forme à heure fixe.
À heure fixe.
C'est ça ce que disait notre professeur au conservatoire.
Bon, cependant, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup répété par étapes, mais là, ces derniers temps, c'est vrai qu'on s'est vu assez souvent. Et on a fait une générale le 16 janvier, là, devant quelques personnes. On a vu que ça accrochait, on sait qu'il y a des choses à corriger, il y a maintenant de la technique aussi, beaucoup de technique dans ce spectacle, parce que comme il y a de la vidéo, il y a du son, il y a de la lumière, tout ça est assez compliqué. Il y a quelque chose d'esthétique. Le spectacle est court, il fait 1h15, c'est très rapide, c'est un peu comme un film, quoi. C'est très rythmé, donc il faut travailler tout ça pour que ce soit vraiment bien peaufiné, que ça rentre bien. Donc on va encore répéter 2 journées de technique pour aboutir complètement la forme.
Mais je suis sûre que ça va très bien se passer. Je viendrai vérifier.
Venez vérifier. On invite évidemment tous les élèves, tous les parents des élèves à venir nous voir. Et on a un petit cadeau à faire. Vous pouvez accéder à une place à 24 € pour 2 personnes. Ça veut dire 12 € au lieu du tarif.
C'est un super cadeau.
Voilà. C'est une invitation pour une place achetée, une place offerte en quelque sorte. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. C'est le festival qui nous a accordé de pouvoir vous faire ce cadeau en direct là, à la radio.
C'est un très bon moyen de l'annoncer.
Voilà.
Merci beaucoup.
Et c'est vrai qu'on aimerait bien partager avec du public intergénérationnel.
Nous, on est là encore un moment parce qu'on participe aussi au concours d'éloquence qu'il y a à l'intérieur du festival. Donc moi, je suis membre du jury. Donc on est encore là quelques jours au début février. Par exemple, s'il y a des élèves qui ont vu le spectacle et qui ont envie d'avoir une rencontre avec nous, de comprendre, de nous poser des questions, nous, on peut revenir au lycée avec plaisir pour faire une rencontre, par exemple, après coup.
Oui, voilà. Je pense que ça en intéresserait plus d'un. On a la chance d'avoir une scène, on a beaucoup d'œuvres comme ça et les élèves aiment beaucoup venir regarder. Maintenant, la dernière question, quel conseil donneriez-vous à un jeune metteur, metteuse en scène, réalisateur, réalisatrice ou un jeune acteur ?
Travailler, comme dirait La Fontaine.
Multitude de conseils. D'abord, d'approfondir son désir, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire exactement. De passer son temps à lire et être curieux. Lire des œuvres. Il n'y a que ça de vrai, quoi, franchement. Lire et voir et écouter. Voir des films, voir des pièces. Aller au théâtre, voir les autres, parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprend. Et puis trouver l'équipe ou les personnes avec qui vous auriez envie de travailler, de faire un compagnonnage, parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est que cette transmission, elle se fait par compagnonnage. C'est vraiment de trouver des maîtres.
Merci beaucoup Jean-Luc Paliès et Louise Doutrely d'être venus pour cette interview. Mmh. Et j'ai très hâte maintenant de venir voir votre représentation.
Merci avec beaucoup. Plaisir.
Merci, avec plaisir.